Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message: Dieu guérit encore.
Voilà, eh bien, nous allons faire une lecture ce matin dans l'Évangile de Matthieu, une brève lecture, Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23, et cela nous situera dans notre réflexion, notre partage. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Alors, ça fait partie des textes que nous connaissons bien parce qu'ils reviennent très souvent dans chez les évangélistes, hein, les quatre évangiles. Et il s'agit d'un sujet tout à fait important et d'actualité parce qu'il s'agit de la guérison. Dieu guérit encore. Il y a dans notre Bible, eh bien, plus de 138 références à la guérison divine, à la guérison que Dieu accorde aux hommes. J'aimerais tout d'abord, avant d'aller plus loin dans notre réflexion, eh bien, prendre ce verbe guérir, guérir, guérison. La racine, c'est un mot dont la racine est germanique. Oui, pour une fois que c'est pas grec ou latin. En tous les cas, c'est une racine germanique. Et je vais vous donner par amplification, eh bien, tous les sens possibles du mot guérir. Ça nous aidera peut-être à comprendre davantage. D'abord, il y a l'idée de défendre, de défense. Et puis, de protection. Vient ensuite la pensée, l'idée de supprimer, de faire cesser, douleur, peine, souffrance, etc. De délivrer, en somme, d'un mal physique ou d'un mal à caractère moral. Et puis en finalité, c'est recouvrer la santé. Alors quand on est malade, on sait qu'on est malade. Quand on est bien portant, on ne sait pas toujours qu'on est bien portant. Comprenez pourquoi, hein? Et ça fait partie des choses qui affligent les hommes, la maladie. Et c'est vrai que c'est une grande question, c'est une grande préoccupation. Imaginez-vous tout le contexte de notre vie sociale, de notre vie économique, hein, si la maladie n'existait pas. Plus de médecins, plus de kinés, plus de chirurgiens, plus d'hôpitaux, de cliniques, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Il faut bien dire que la maladie tient une place, hélas, considérable dans nos sociétés. Et bénissons le Seigneur que nous vivons dans des sociétés qui, eh bien, font quelque chose pour soulager les hommes. Parce qu'il y a des pays, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais pour nous, chrétiens, eh bien, nous avons encore un autre espoir. Nous avons une autre raison de considérer la question de la maladie, maladie mal. Et cela, il y a aussi derrière la perspective de la mort. Et tout cela, eh bien, nous avons dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile, à travers ce que nous allons voir ce matin, eh bien, quelque chose de formidable, parce que Il y a bien sûr des secours extérieurs, mais nous pouvons dire que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons quelque chose de formidable, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Parce que à partir du moment où la foi occupe nos cœurs, à partir du moment où les promesses de Dieu sont là, eh bien, au plus profond de nous-mêmes, à travers ce que nous savons de ce que Jésus a accompli, de ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, nous avons véritablement besoin des grandes possibilités devant nous et une force d'espérer, non pas d'en bas, mais d'en haut. Bien que ce que je vais dire et les propos que je vais tenir ce matin, eh bien, ne sont pas là pour tout simplement ignorer ce que les hommes, à travers les siècles, les efforts humains, en considération des sciences médicales, de la médecine, du dévouement de tous ces gens, ça ne veut pas dire que ce sont des choses que nous ne tenons pas en compte. Au contraire, bénissons le Seigneur de nous avoir donné des gens qui, eh bien, apportent le soulagement et prolongent aussi la vie. Mais notre réflexion sera une réflexion d'ordre biblique, évangélique, doctrinal, même si on veut aller par là, et dans le but, eh bien, de fortifier notre foi dans celui qui se présente à travers l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, celui qui est tout-puissant. Jésus le dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, sur la terre, ce sont les souffrances, ce sont les drames, ce sont les peines, tout ce que nous connaissons, mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui, véritablement rempli de compassion et d'amour, vient au secours des hommes. Alors voilà, à guérir, c'est tout cela. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait au peuple d'Israël comme Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement faire un tour d'horizon des promesses de guérison qui sont dans la parole de Dieu. Alors j'en ai collecté quelques-unes, je vous ai dit, il y en a plus de 138, 140 et certainement davantage quand on y regarde de plus près. Écoutez, avant d'aller un peu plus loin. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Israël, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Donc, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y avait Rapha. Ensuite, dans le livre des rois, un roi d'Israël qui était très malade à la mort, Dieu dira, « J'ai entendu ta prière, je te guéris ». Vous avez fait le lien, la guérison qui passe par l'invocation du nom de Dieu. Ensuite, c'est David qui dira ceci, « Mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Toujours dans les psaumes, il est dit ceci, « C'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. » Le texte peut-être le plus connu, qui touche particulièrement notre cœur, c'est dans le psaume 107. « Il envoya sa parole et il les guérit. » Et on va comprendre pourquoi il a envoyé sa parole. Parce que c'est elle qui stimule notre foi dans le vouloir et le pouvoir de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 57, il nous est dit « Paix, paix, et je les guérirai. » Ouais. Parce que quelque part, lorsque nous sommes dans la maladie, ce n'est pas la paix. Hein. Pas la paix physique, lorsque nous sommes là, aux prises avec la fièvre dans notre corps, et pas la paix morale ou le repos, la sérénité psychologique, parce qu'il y a toujours de l'inquiétude avec la maladie, naturellement. Le prophète Osée dira ceci, c'est toujours Dieu qui parle, « Ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Ah, ça c'est quand même une interpellation étrange parce que Dieu est venu, il s'est manifesté, il a parlé, il a donné des promesses, et voilà que pour Israël, Dieu va être obligé de déclarer, mais ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas remarqué que c'est moi qui les guérissais. Combien encore aujourd'hui les gens échappe à la mort ou à l'accident ou à autre chose, mais certainement dans leur pensée, ils ne viendraient pas d'imaginer que c'est encore la grâce de Dieu qui les accompagne, qui les a accompagnés. Dans le Nouveau Testament, ce que nous allons voir d'ici quelques instants, dans l'évangile de Matthieu, pour ne parler que de lui, nous avons lu tout à l'heure, il guérissait toutes les infirmités. Et toujours dans le même texte, il guérit tous les malades. Et ensuite, quand il a envoyé ses disciples, eh bien, il leur a donné mandat, et un mandat particulier qui devait être exprimé sous deux formes, annoncer la parole de Dieu, et il leur donna le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qui là d'ailleurs les a enthousiasmés. Et puis, un texte référence, c'est après la résurrection de Jésus, au moment où Jésus va partir, il va monter au ciel, il donnera mandat à ses disciples tout simplement de faire ceci. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Imposer, prier, accompagner, encourager. Et dans ce geste de, comment pourrait-on dire, dans ce geste de sollicitude, dans ce geste où notre cœur s'unit avec celui qui souffre, ainsi que nos mains, alors à ce moment-là, eh bien, ils imposeront les mains aux malades, et voilà que le miracle va se produire. Les malades seront guéris. Ça, c'est pas l'engagement d'une parole humaine, c'est l'engagement de la parole de Dieu. Dans Luc, dans ce fameux discours fleuve, qui va être, eh bien là, les prémices du ministère de Jésus, il nous est dit, le Seigneur m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il ne s'agit pas seulement d'une guérison physique, mais d'une guérison intérieure. Et puis voilà, guérissez les malades, dira-t-il à ses disciples, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ça fait partie justement des choses extraordinaires de l'Évangile, c'est que Dieu guérit pour que véritablement il s'ouvre à une autre dimension qui est celle du salut. On en reparlera d'ici quelques instants. Un jour, Jésus guérit un homme qui est malade depuis 38 ans, c'est pas une petite affaire, impotent, paralysé, à la piscine de Bethesda à Jérusalem. Et voilà qu'il va lui dire cette chose, après avoir été guéri, il lui dira « Mais tu as été guéri, alors va, et va, mais ne pêche plus ». On voit encore tout cela, ce sont des compositions qui nous amènent à comprendre que la guérison divine, eh bien, elle est tenue avec toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'éléments autour dont nous avons besoin de veiller et de faire attention naturellement. Dans le livre des Actes des Apôtres, cette belle parole, il nous est dit que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu. Ce n'est pas, en effet, finalement, eh bien, les malades, mais c'est lui qui allait à la rencontre des malades. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire, finalement, de la souffrance, de la maladie, et de celui qui est l'auteur de la maladie, nous en reparlerons, eh bien, l'ennemi. Un autre texte qui nous parle également de guérison divine, il est question de l'impotent de Lystre dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul était en train de prêcher Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui guérit. Et là, dans un regard, eh bien, l'apôtre Paul a vu un homme qui l'écoutait attentivement, et Paul a discerné une chose. Il est dit, voyant que cet homme avait la foi pour être guéri, il lui a dit cette parole, « Eh bien, maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et voilà que cet homme se met à gambader. Ouais, il a vu qu'il avait la foi. Il y a des choses qui nous prédisposent, finalement. Dans l'île de Malte, Paul rencontrera un homme malade, de la fièvre, de la dysenterie. Et il est venu vers cet homme qui était malade. C'était un homme âgé. Et il nous est dit qu'il lui a imposé les mains. Et il a été guéri. Voilà. On va s'arrêter là dans toutes les citations. Je vous dis, autrement, on passe toute la matinée à faire des citations. Mais simplement pour camper notre réflexion, parce que c'est important ce qui va suivre. Je vais rappeler des vérités fondamentales de la Bible ce matin. Voilà. Ça va pas être très compliqué. Mais il y a peut-être, et certainement, je n'en doute pas, des amis qui sont là, des frères et des sœurs, vous souffrez, eh bien, imprégnez-vous de cette parole, parce que je suis convaincu que le Seigneur, au moment où vous entendez la parole, est capable de vous guérir sur votre chaise. On l'a vu avec le baptême du Saint-Esprit. On l'a vu dans tant de domaines. Alors, ça, c'est important. Écoutez bien. Je rappellerai seulement que Jésus est venu pour révéler une des plus grandes grâces que Dieu n'ait jamais faites, eh bien, aux hommes. C'est une grâce immense, c'est une grâce qui était aussi immense que le besoin dans notre monde, c'est guérir les hommes de leur maladie. La souffrance due à la maladie a toujours été présente dans l'humanité. Ouais. ça a toujours été une constance. Elle est et demeure la préoccupation majeure des hommes. Vous savez, dans la rencontre de ceux que nous croisons, amis, famille ou autres, la première question qu'on leur demande, c'est « ça va ?» N'est-ce pas ? Alors ça, c'est vraiment la formule passe-partout. On a ou non une réponse. Il y a des réponses déguisées, des réponses qui, finalement, eh bien, sont des faux fuyants. Mais parce que je crois que, instinctivement, il y a quelque chose qui nous rappelle que quand on est malade, ça ne va pas. On n'est pas bien. Et c'est un combat perpétuel, c'est un combat de toujours. Alors, c'est vrai qu'il faut s'en préoccuper. Le nombre des malades est considérable, hier, aujourd'hui, et nous le voyons bien autour de nous. Nous le voyons bien. Les uns et les autres, nous sommes passés par toutes sortes de maux hein, dans notre vie. Ça n'a peut-être pas été très grave, mais dans certains cas, on s'en souvient. Hein. Pour d'autres, ils ont été arrachés comme des tisons à travers le feu, hein, qui allait les emporter certainement à la mort. Jésus était en son temps un, et je dis bien, je pèse, hein, un immense espoir. Parce qu'il y avait une attente d'un Messie, mais il y avait l'attente aussi eh bien, de quelqu'un qui viendrait apporter des paroles de consolation, d'encouragement, un espoir dans ce monde d'Israël en ce temps-là où véritablement, c'était pas la religion qui pouvait apporter quelque chose. C'était pas la politique, c'était pas ceci ou cela. Il y avait besoin d'autre chose. Donc, il est venu comme une formidable espérance pour tous les malades, en particulier de son temps. Il est apparu pour offrir la possibilité d'être guéri. Considérez les quatre évangiles que nous avons devant les yeux. Il n'y a pas une page où il n'y a pas, eh bien, une, plusieurs, quelquefois même des dizaines de guérisons. Ça, c'est extraordinaire. Et l'Évangile a été fait pour cela, justement. Parce que, peut-être avant les hommes, il faut commencer, avant les âmes, il faut commencer par les corps, pour ensuite arriver à une autre guérison, eh bien, d'une autre dimension. Il nous est dit que une bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et qui sont ces pauvres ? Des paroles et des actes. Et c'est ce que Dieu a voulu manifester. Des paroles et des actes, parce qu'on peut toujours lui dire, eh bien, sois guéri, sois en bonne santé. Mais c'est pas parce qu'on prononce ses vœux que les choses sont ainsi. Et on a, il y a encore quelques semaines, échangé des vœux par écrit, par Internet, ou tout simplement, eh bien, par le moyen le plus simple, en le disant, avec beaucoup d'affection. Une bonne santé. Alors ce sont des vœux, tout cela. Mais c'est quand même quelque chose qui est au cœur cœur des hommes. La parole de Dieu nous dit que nous avons un médecin qui est divin. Oui. Il vient du ciel. Et comme tel, il a été annoncé par les prophètes depuis toujours, depuis jadis. Dans Ésaïe 35, écoutez bien cette parole. C'est Dieu qui parle à son peuple. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. » Ça, c'était Ésaïe avant la venue du Messie, 800 ans auparavant. « Voici votre Dieu, et que fera votre Dieu ? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Qu'est-ce que Jésus a fait, et qu'est-ce que nous lisons dans l'Évangile ? C'est précisément la réalisation de cette prédiction du prophète Ésaïe. Jésus l'a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des miracles. Et ça a été l'impulsion pour, eh bien, donner la mise en route, si vous me permettez de le dire ainsi, le démarrage, le starter, le départ de l'Église chrétienne. Ça a été fondé, entre autres, je dis bien entre autres, sur la manifestation de la puissance de Dieu s'intéressant aux pauvres, s'intéressant aux malheureux, s'intéressant aux souffrants, peut-être même à tous ceux qui étaient au bord de basculer dans et d'être emportés par le mal. Jésus est venu dénoncer la vraie nature de la maladie, mais aussi le moyen d'en être délivré. Parce que Jésus a fait les deux. Il est venu donner le diagnostic, Il a fait l'ordonnance, et puis il a donné la capacité aux hommes d'utiliser, de croire à ce diagnostic, d'utiliser et de mettre en vigueur cette ordonnance pour pouvoir être délivré, pour pouvoir être guéri. Parce qu'il faut y croire. Si vous allez chez le médecin, vous lui dites « je suis malade », le médecin déclare que vous êtes, eh bien là vous avez une maladie qui risque de vous emporter. Il va vous donner tout un protocole, une ordonnance si vous voulez. Et si vous dites, eh bien moi en lisant l'ordonnance, moi j'y crois pas. Eh bien, vous savez ce qui va arriver. C'est même pas la peine d'aller voir le médecin. Et vous savez, cette ordonnance, nous l'avons dans un livre qui est la Bible, l'Évangile. Et là vous avez toutes les prescriptions. Et croyez bien, c'est pas de la chimie. Hein. C'est du nature, hein. C'est du bio. Hein. Guérison divine. Ouais, la guérison divine. On va le voir en plusieurs points. Comment l'obtenir? Ah. Sur quoi repose-t-elle? Est-ce qu'il y a une part de science? Certains vous diront, mais il y a quelque chose de bizarre, c'est spirituel la guérison divine. Mais est-ce que ça ne viendrait pas de ce monde que l'on appelle ténébreux, occultisme et tout ça? On va y répondre. Son but pour notre vie, et nous allons le définir en 6 points très précis. Il y a un premier pas, si vous me permettez de présenter les choses de cette manière aujourd'hui. Comment l'obtenir? Alors la réponse, elle est très simple, vous la connaissez déjà, c'est la foi. C'est la foi. La foi est la pierre angulaire qui permet à Dieu d'agir. C'est en quelque sorte le moyen de communication, c'est la monnaie, c'est la monnaie dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Autant sur la terre, eh bien, nous payons avec des euros, des dollars et tout ce que vous voudrez pour obtenir. Mais là, eh bien, ce que Dieu va agréer de nous, oui ou non, si nous croyons en lui, si nous lui faisons confiance, donc c'est la foi qui permet à Dieu d'agir. Rien à voir avec nos mérites, et là il faut que ça descende. Nos qualités, notre position, ce que nous sommes en tant qu'hommes, ça n'a aucune valeur, il faut le dire et le redire. La foi est avant tout une conviction, une certitude, une disposition ferme de notre cœur. Écoutez ce que nous dit le livre des Hébreux. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, et la foi consiste à croire sans voir. » Quand on est malade, on ressent. On a toutes sortes de sensations, on a toutes sortes d'impressions. Et je peux vous dire, quand vous avez une sciatique, vous savez bien que ça ne vous fait pas du bien. Alors là, vous le sentez. Mais ce que Dieu nous demande, même devant les évidences, même devant peut-être ce qui nous fait pousser des cris, des hurlements, parce que c'est ça aussi le mal, la maladie, eh bien Dieu va nous donner un remède qui consiste à croire sans voir. Seigneur, je suis là aux prises avec un terrible problème dans mon corps ou peut-être même dans mon âme, parce que ça va aussi. Seigneur, je ne sais plus, je ne comprends plus. Le Seigneur nous dit, ne cherche pas à voir. Mais demande-moi mon aide pour que tu puisses croire, tout simplement. Alors, car il faut, nous l'avons dit, il est impossible de lui être agréable, car il faut, tout simplement, eh bien, croire que Dieu existe. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment vous faire comprendre cela si vous ne l'avez pas déjà compris ? La démonstration que des choses qu'on ne voit pas, c'est déjà considérer que Dieu agit, c'est déjà considérer que j'ai déjà reçu avant de le voir se réaliser. C'est un abandon entre les mains de Dieu. Je vous ai dit, c'est une conviction au fond de notre cœur. La foi rend possible toute chose. Et Jésus le dira à un homme qui était véritablement dans une grande crise, hein, d'angoisse pour son fils. Il dira, mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur, donne-moi plus de foi. Donne-moi une grande foi. Donne-moi la foi pour guérir, pour croire à la possibilité de ton intervention. Oui, tout est possible. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si nous prions parce que nous sommes malades, n'allons pas invoquer tel saint ou telle sainte. N'allons pas invoquer ceci ou cela. Invoquons Jésus, puisque c'est lui qui nous a dit que c'était par lui que les choses passeraient. Vous allez me dire, C'est simple, hein, ce que je suis en train de dire, c'est la simplicité, mais il faut revenir aussi à la simplicité. Parce que nous, vous connaissez tout cela. Mais il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui entendront la même chose et qui ont besoin d'avoir un enseignement, je dirais, eh bien de base. Un enseignement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. La foi exprimée par la prière. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je te le demande, je suis souffrant, je suis malade. Alors, tu me dis bien tout simplement que je dois croire que je l'ai reçu. Et tu me promets que je vais devoir l'accomplir. Mais Seigneur, je t'ai prié, je ne sens rien. Quand est-ce que tu vas me guérir? Comment tu vas me guérir? Alors arrêtez avec ces questions parce que vous neutralisez votre foi. Il nous est dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne nous dit pas quand il va le faire, mais il va le faire. Il va le faire. Je vous dirais que un peu de foi suffit, parce que je vous ai parlé de grande foi. Et qu'est-ce que donne Jésus comme estimation de la foi? Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénevé, si vous aviez la foi gros comme, vous savez, là, comme une noix de coco, ou je ne sais quelle autre semence, mais très grosse, non, comme un grain de sénevé, vous savez ce que c'est que le sénevé? C'est le petit grain de moutarde rouge. C'est rien du tout. Alors, imaginez-vous que si déjà nous avons ça, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Alors, quand on a véritablement une grande foi, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut s'imaginer toutes les possibilités. Jésus a rendu hommage à la foi des hommes, mais particulièrement à l'hommage de deux païens, de deux non-juifs. L'un était centenier et l'autre était cananéen. Et vous savez ce qu'il a dit devant les juifs à ce moment-là? Il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Jésus n'a pu rien faire, par exemple, dans le contraire, à l'inverse, à Nazareth, là où il est né, là où il était connu, à cause de leur incrédulité. Parce que vous savez, notre ennemi, c'est l'incrédulité, c'est le doute, c'est le scepticisme. Et puis c'est aussi cette façon de faire, elle est très humaine et très naturelle, c'est-à-dire que nous voulons tout interpréter avec notre tête, nous voulons tout comprendre, c'est cérébral, et puis finalement, eh bien, nous neutralisons la foi, qui normalement doit jaillir du cœur. Permettez-moi de rappeler que le doute, c'est l'ennemi numéro un. Et Jacques nous l'enseigne et il nous dit ceci. Il faut que celui qui demande le fasse sans douter, car celui qui demande et qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous priez pour être guéri, ne vous attachez pas à trop ce que vous ressentez. Les impressions, toutes les pressions, tout ce que vous pouvez entendre de droite et de gauche, fixez-vous sur la parole et les promesses que Dieu vous a données. Vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez se réaliser. Emporté comme le flot de la mer. Et tant que vous poserez des questions autour de vous en disant « Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Ceci et cela », vous allez complètement déliter votre foi. Non, restez sur ce que Dieu vous dit. Mets en lui ta confiance. Et il agira, tout simplement. Alors attention à nos craintes, attention à l'agitation, attention à l'inquiétude, à nos angoisses, hein, parce que l'inquiétude n'est pas la foi, il faut bien le comprendre. Alors comment croire vraiment? Et comment faire pour mettre dehors notre incrédulité viscérale? Ah ouais, on se bat avec ça, les uns et les autres. Nous nous appelons entre nous et nous nous déclarons croyants. Mais est-ce que nous sommes aussi croyants que nous le pensons? Alors, croyants, oui, dans les généralités, mais croyants en temps de crise. Croyants lorsque nous sommes dans une situation cruciale. Où est ma foi à ce moment-là? Est-ce qu'elle est réactive? Est-ce qu'elle est endormie? Est-ce que véritablement elle me permet de sortir du carcan dans lequel, eh bien, je me trouve? Cet homme dont nous parlions tout à l'heure, où Jésus dira, mais tout est possible à celui qui croit, eh bien, se verra entendre en réponse. Jésus se verra entendre en réponse à son doute. Cet homme dira à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et vous savez, avant de vraiment aller plus loin, avant de nous engager sur autre chose, Eh bien, commençons par demander au Seigneur qu'il nous guérisse de notre incrédulité, de nos doutes, et qu'il nous débarrasse de nos craintes. La foi vient et naît au contact de l'Évangile, puisque Paul l'écrira en lettres de feu, dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mes amis, vous entendez la parole de Dieu et elle est susceptible, elle est la seule capable de vous donner la foi. Ce n'est pas la peine de faire ceci ou cela, de vous répandre dans toutes sortes d'autres choses. La foi vient de ce que l'on entend. Et c'est la parole de Dieu, véritablement, qui va susciter la foi. Il y a un deuxième pas, une deuxième étape. C'est que la guérison divine se manifeste par la foi dans ce que Dieu est toujours le même pour guérir hier comme aujourd'hui. Je veux vous rappeler une chose importante. C'est que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Puisque les dernières paroles de l'évangile de Matthieu sont exprimées ainsi, « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce avant sa crucifixion ou après sa crucifixion? C'était certes après sa crucifixion, mais c'était avant tout après sa résurrection, donc il peut dire « Je suis tous les jours avec vous ». Le temps des miracles n'est pas révolu. Dieu ne change pas. Ses promesses, considérez-le comme ça, sont toujours au présent. Écoutez, on en a lu quelques passages tout à l'heure. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dans Hébreux, il nous est dit que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, éternellement. Jésus a fait une promesse afin que se perpétue son œuvre de délivrance. Dans Jean chapitre 14, il est dit ceci, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera encore de plus grandes. » Donc l'œuvre de guérison, l'œuvre de délivrance ne s'est pas arrêtée à l'ascension de Jésus. Elle s'est continuée à travers tous les siècles que l'on appelle la dispensation du christianisme, les temps évangéliques dans lesquels nous sommes encore aujourd'hui. Et il y a, hélas, pas assez souvent, mais dans nos pays et dans le monde entier aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, des hommes et des femmes qui prêchent la guérison divine et des hommes et des femmes qui reçoivent cette guérison divine et qui sont délivrés de leur maladie, qui voient Dieu se manifester par l'action puissante du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé. Je suppose que nos églises, ne serait-ce que dans notre pays, qui quand même est un pays qui est marqué quand même par une désaffection de la foi, eh bien je peux vous dire que déjà depuis près d'un siècle, les églises que l'on appelle les églises de réveil, les églises évangéliques, de toute famille à considérer, eh bien sont des églises qui ont été bâties par le message du salut et le message de la délivrance et de la guérison divine, et ne serait-ce qu'à Saint-Nazaire. Et aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver encore cette dimension de guérison et cette dimension de puissance de l'esprit où Dieu vient vers nous pour nous faire le bien que nous lui réclamons. Parce que nous savons que quand Jésus a fait cette promesse, que ses serviteurs en feront de plus grands, mais c'est dans le temps et dans l'espace. Et ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Jésus a donné mandat à ses disciples, après lui, de guérir. Dans Marc, toujours cette référence, chapitre 6, on y revient parce que c'est quand même essentiel. Il nous est dit « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nous en avons parlé tout à l'heure. Jésus a imposé les mains aux malades à travers la manifestation de signes de délivrance, de guérison qui étaient toutes conditionnées et qui étaient toutes le résultat tout simplement de la foi dans les cœurs. Et les dernières paroles de l'évangile de Marc étaient les suivantes. « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui en auront cru. » Voilà, c'est aussi eh bien, l'attestation de la présence permanente de Jésus et de ce Jésus qui est avant tout le médecin divin. La présence de Christ, hein, la présence du Christ ressuscité, il faut le dire, est au milieu de nous. Et il faut le rappeler. Nous sommes entre nous. Nous sommes une communauté d'hommes et de femmes. Nous sommes là autour d'une personne qui nous rassemble, qui n'est certainement pas le pasteur, mais la personne de Jésus-Christ. C'est cela qui fait notre motivation. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors merci Seigneur quand on est 100, 200, 10 000, peu importe. Mais ne serait-ce que déjà à trois, le Seigneur est là. Oh, et je vous dirais même à deux. Puis au fond de notre cœur, même quand on est tout seul. Oui. Vous savez, il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est notre foi en lui. On en parlait dernièrement, cette parole que nous trouvons dans le prophète Habacuc, « Et mon juste vivra par la foi ». Ça, c'est une parole merveilleuse. Il vivra par la foi. Parce que Jésus voit, ça nous était rappelé ce matin, il connaît, il entend, il compatit, et tout ça, c'est le fruit de son amour, tout simplement. Troisième étape. La guérison divine se manifeste par notre foi dans la volonté de Dieu de nous guérir. Est-ce que nous croyons, oui ou non, que Dieu veut nous guérir? J'ai eu quelquefois des interpellations de gens qui sont venus en disant « Mais moi, je ne crois pas que la volonté de Dieu, c'est de me guérir. » Bon, bah, ça limite, hein. Ça limite les choses, hein, c'est sûr. Écoutez le texte. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 23, il est dit « Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant Jésus et lui dit « Mais Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Et qu'est-ce qu'il nous est dit après? Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre, il fut guéri de sa lèpre. Quand nous abordons le sujet de la guérison divine, il faut être convaincu que Dieu veut guérir. C'est sa volonté. Il ne veut pas que les hommes soient malades. Et si nous sommes malades, il veut que nous soyons guéris. Sa volonté, c'est que les hommes soient en bonne santé. Quelle est cette idée saugrenue, pernicieuse, de la souffrance? Où là, eh bien, certains pensent que par la souffrance, ils vont se racheter. Non, nous avons été rachetés par la souffrance de Christ. Et c'est pourquoi de cette déclaration qui nous est faite, c'est que aujourd'hui, nous sommes affranchis de cette fausse conception qui nous amène à dire à mes seigneurs, je suis malade, mais je sais que ta volonté, c'est de me guérir. Tout simplement. Parce qu'il ne repousse personne. Même le lépreux, parce que s'approcher d'un lépreux, un lépreux qui s'approche de vous, ça quand même comporte des risques. Ce n'est pas une affaire de dignité. Je dirais même, ce n'est pas une affaire de sainteté. Parce que les uns et les autres qui sommes venus à la conversion, on n'était pas saints quand on est venu, hein. On ne l'est peut-être pas encore, hein. Mais on n'était pas saints, on n'était pas les meilleurs. Et la première chose que Dieu a fait, avant peut-être de nous apporter le message du salut, lorsque nous avons crié à lui parce que nous étions malades, il a commencé par nous guérir, physiquement. C'est vers tous les malheureux que Jésus s'est tourné. On le voit, on le lit dans la Bible. Tous les malades. Et il y a également une forteresse qui doit tomber. C'est ce que je vais dire. C'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal et de la maladie. C'en est un autre. Nous avons donné des droits à l'autre, à l'ennemi, à l'adversaire. Vous lui donnerez tous les noms que vous voulez. Mais Dieu n'est pas en cause. Et vous savez, quand les gens sont malades, la première réaction, quand il leur arrive un accident, ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais ce n'est pas au bon Dieu qu'il faut s'en prendre. Si vous pouvez vous tourner vers lui pour lui demander son aide, ça c'est certain. Les hommes rendent toujours responsables spontanément de leur souffrance à Dieu. Alors quel est donc ce vrai responsable? Eh bien, c'est encore un autre texte qui nous le dit. Et moi, je vais vous répondre par des textes. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, nous dit le livre des Actes, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ah oui, le mot dont on ne veut pas entendre. Le mot que l'on cache. Le mot, cette action, cet être pensant et intelligent qui travaille dans l'anonymat. Je n'existe pas. Mais la Bible dit qu'il existe. La Bible le dévoile, la Bible le déchire dans ces ténèbres dans lesquelles il se cache, pour que tout le monde sache que c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est le destructeur, c'est lui qui est le meurtrier, c'est lui qui est le menteur, et qui nous fait croire les choses pour nous confondre en disant « mais c'est Dieu qui est responsable, mais c'est ton Dieu ». Il y a un homme qui nous apprend beaucoup de choses, c'est le livre de Job, enfin Job dans son livre en tous les cas. Je crois qu'il nous faut avoir les yeux ouverts sur les réalités de l'invisible, du monde invisible. La maladie, la mort, les drames, l'accident ont pour origine le diable, nous dit la parole de Dieu, et tout cela découle de la chute. Puisqu'au moment de la chute, l'homme a pris une option, quelque part, de désobéissance. au lieu de faire confiance à Dieu, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Il faut se dire que cet être pensant et intelligent, nous dit aussi l'Évangile, veut la misère, la ruine et le malheur des hommes, la mort des hommes. Dieu veut nous guérir, il veut nous sauver, il veut nous délivrer, c'est tout le contraire, c'est pas trop difficile à comprendre tout ça. Le Fils de l'homme apparu pour nous délivrer des œuvres du diable, nous dit l'apôtre Jean. Quatrième pas, quatrième étape, rapidement. La guérison divine se manifeste par notre foi, non seulement dans le vouloir de Dieu, mais dans le pouvoir de Dieu de guérir. Chez Dieu, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Écoutez cet autre passage. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est le texte de Actes. Hein? Oui. Combien ? Vous savez comment ? Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Jésus a reçu toute puissance et toute autorité de Dieu pour guérir. Ça, c'est clair. La puissance en son nom, nous dit le livre des Actes des Apôtres, et le fondement était le fondement tout simplement de la foi des apôtres et des premiers chrétiens. Vous connaissez le paralytique, le boiteux, à la porte du temple. Quand Pierre et Jean, sur une parole, cet homme a été guéri et que les Juifs sont venus lui demander des comptes à Pierre qui avait prononcé cette parole, il a dit c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri, que vous voyez maintenant guéri et en forme. C'est au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme aux capacités limitées. Dieu n'est pas un homme. Mais ses capacités sont infinies. Il est tout-puissant. Le pouvoir de Jésus sur la matière, on le voit se manifester à travers des miracles qui ne sont pas des miracles de guérison, mais qui sont des prodiges. L'eau changée en vin. Les choses cachées qui sont révélées. Les éléments de la nature lorsqu'ils calment la tempête. Les puissances infernales quand on voit le summum d'une délivrance d'un homme qui était d'une grande possession inimaginable, le gadarénien par exemple. La maladie, le lépreux dont nous avons parlé tout à l'heure, les infirmités, quand on parle de Bartimée qui était un mendiant aveugle et qui à un moment donné va recouvrer l'usage de la vue, la mort. Jésus a le pouvoir de la mort, sur la mort. Le fils de la veuve de comment s'appelle ? De Jaïr, de Naïn, voilà, Naïn, la fille de Jaïrus et puis Lazare également. Il n'y a pas, frères et sœurs, de maladie trop grave que Dieu ne puisse guérir. Jésus peut toute chose dans la mesure où l'on le croit capable. Tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Cinquième étape, la guérison divine repose sur le sacrifice de Jésus à la croix. À la croix. Ésaïe présente le Messie sauveur ainsi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Notre guérison et délivrance nous sont acquises par les souffrances de Jésus à la croix. C'est pourquoi la croix reste le point de ralliement de tous les hommes. Le point central de notre vie, de notre salut, de notre guérison, de nos délivrances, de tout ce dont nous avons besoin. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, nous dit toujours le prophète Ésaïe. Dans ses meurtrissures, eh bien, nous avons la guérison. Qu'est-ce que nous ressentons ce matin ? Qu'est-ce que nous pouvons penser ? Quelle est la nature et l'état de notre foi ? Est-ce que nous pouvons nous tourner un instant et de dire « Mais Seigneur, je ne serai pas guéri, je suis guéri. » Comprenez ce que ça veut dire. C'est au présent. Nous avons entendu dans le ministère pastoral, au cours du ministère pastoral des guérisons extraordinaires. Ça s'est fait parfois à l'imposition des mains lorsque nous avons prié pour les malades. Ça s'est fait lorsque nous sommes allés les rencontrer sur un lit de maladie, à l'hôpital, à la clinique, dans toutes sortes de circonstances. Ça s'est fait lorsque les gens ont entendu la parole de Dieu et ils ont saisi à ce moment-là et nous disant après, mais j'ai saisi une parole. J'ai regardé véritablement à Jésus. J'ai invoqué Dieu au nom de Jésus-Christ. Et j'ai été délivré. Aujourd'hui, je ne suis plus malade. Avec quelquefois, avec souvent constatation des médecins qu'il n'y avait plus rien. Alors, coïncidence ? Hasard ? Non, non. C'est notre foi en Jésus-Christ. Et c'est à cause de ce qu'il a accompli lui-même qu'aujourd'hui, nous pouvons recouvrer la santé. Parce qu'elle est là, elle n'est pas à faire, c'est déjà fait depuis 2000 ans, mes frères et sœurs. C'est comme le baptême du Saint-Esprit, mes frères qui attendaient le baptême du Saint-Esprit. Vous attendez que ça vienne ? C'est déjà là. C'est vous dans la disposition de foi, dans votre abandon et de dire « Mais Seigneur, je te loue ». Et quelquefois on se perd dans les prières, des prières et des prières, où on tombe finalement dans ce que Jésus nous demande de ne pas faire. Ne multipliez pas de vaines paroles parce que vous imaginez qu'à force de paroles vous serez exaucés. C'est une position de foi, tout repose sur la foi. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que je suis délivré, je suis guéri. Je suis baptisé du Saint-Esprit et vous allez voir que ça va se faire. Comment le communiquer, comment le faire ? C'est personnel. C'est nous personnellement. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes réellement guéris. Mais maintenant, je suis guéri. Que la guérison divine passe sur chacun d'entre vous au moment où vous l'entendez. Hein. Moi, j'apporte la parole. Selon ce qu'il est dit, il envoya sa parole et il est guéri. Saisissez dans la foi ce matin. Jésus a pris notre place. Sa souffrance nous libère de la nôtre. Jésus a tout accompli pour chacun d'entre nous. Et je termine sur la notion, la dernière notion, qui sera la conclusion. Guérison qui nous conduit au salut. Il y a des milliers de gens qui sont venus dans nos réunions, qui ont lu l'Évangile, qui ont cru à ses paroles, qui ont cru à ses promesses, qui ont invoqué Dieu, qui ont fait marcher leur foi, mais qui n'ont jamais été plus loin. Ils ont été guéris de maladies graves, ils ont été guéris de maladies chroniques invalidantes, mais ils n'ont pas été plus loin. Nous sommes là ce matin parce que nous avons cru que le Seigneur avait fait de grandes choses, qu'il a fait de grandes choses dans notre vie, y compris la guérison physique et morale. Mais nous sommes là encore parce que nous croyons qu'il y avait encore une autre guérison qui s'ensuivait. La guérison de nos âmes, le salut de nos âmes. Voilà la différence. Jésus guérit les corps et il veut guérir aussi les âmes qui souffrent de la maladie mortelle du péché. Ne prenons pas d'autres mots parce que finalement la maladie est liée au péché. Paul le dit dans Romains, le salaire du péché, pas tout de suite. À terme, c'est la mort. Ah ben remarquez, vous savez, si à chaque fois qu'on péchait, on mourait, il ne resterait plus grand monde. Parce que Dieu a permis que nous vivions, que nous continuions quelquefois à marcher un peu de travers, c'est parce qu'il a un message à nous donner. Hein. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message. Que le péché est destructeur. Que le péché nous rend malade. Que le péché détruit nos cellules. Qu'il détruit nos âmes. Il met en miettes notre identité. Et puis ceci et cela, et il fait de nous des esclaves, il fait de nous là des hommes qui sont asservis à une tyrannie. C'est terrible cela, c'est terrible, mais c'est pourtant la réalité. Le meilleur moyen de conserver ce que Dieu nous donne, c'est de s'attacher à lui. Le jour où nous avons fait les belles expériences, nos premières expériences, vous savez ce qu'on a dit, Seigneur ? Maintenant, Seigneur, je veux que tu sois non seulement le sauveur de ma vie physique, de ma vie morale, mais je veux que tu sois le Seigneur de tout. De tout. Donc de sauveur, il est devenu le Seigneur. Il est devenu le roi de notre vie. On s'attache à lui. On lui dit maintenant, Seigneur, avec ce que j'ai vécu, parce qu'on se souvient de certaines choses, des premières expériences, on a failli passer de l'autre côté. Hein. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grand espoir pour chacun d'entre nous. Mais quand on a vu qu'il nous avait remonté d'une manière extraordinaire, formidable, ça a été certainement les moments les plus forts de notre vie, c'était la découverte. C'est le premier amour avec le ciel. Et là, on a été convaincus, on s'est dit, Seigneur, maintenant, moi je suis convaincu que c'est toi, il n'y a que toi. Alors, je te donne ma vie. Le meilleur moyen donc de conserver ces choses, eh bien, c'est de s'attacher à lui. Regardez Bartimée, il reçoit la guérison de ses yeux. Et avec ses yeux, qu'est-ce qu'il va faire ? Il aurait pu regarder le monde entier, parcourir le monde entier parce qu'il avait perdu tout son temps, enfin le temps de son infirmité, des années, des années. Et il nous a dit qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Le mot « il a suivi avec des yeux nouveaux, avec des yeux neufs, avec une vie nouvelle. Mais il a suivi Jésus, il s'est attaché à lui, tout simplement. Guérir, l'expérience de la foi miraculeuse doit nous amener à nous interpeller, à découvrir, à répondre à l'appel de Dieu, à le servir. C'est ça le plus important. Alors mes frères et sœurs, je crois que ce que je voudrais vous dire simplement, ce sont des choses toutes simples que nous avons vues ce matin, mais ce que nous pouvons demander à Dieu maintenant, en courbant nos têtes, c'est qu'il nous donne véritablement la foi qui nous guérit et la foi qui nous sauve. On va prier. On va prier, j'ai prié pour vous. On va prier les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Oui, Seigneur, ce sont des paroles qui sont des paroles de délivrance, des paroles de grâce, des paroles qui font du bien, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, moi je te prie pour tous mes frères et mes sœurs. Je te prie pour tous les malades qui sont dans le monde. Je te prie pour tous ceux qui souffrent dans leur corps avec des douleurs, en effet indicibles, insupportables pour certains. Nous voulons te demander, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur âme, et nous voulons te demander dans ta bonté, dans ta fidélité, que maintenant par le Saint-Esprit, qui va prendre le relais de la parole, dans la connaissance, petite ou grande qu'ont les hommes, eh bien de se tourner vers toi, et de dire, Seigneur, tu portes bien le nom de Sauveur, tu portes bien le nom de Seigneur, alors maintenant je te laisse toute la place, augmente ma foi, fais-moi du bien dans le nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, et bénis cette parole, afin qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être auprès de ceux qui véritablement, Seigneur, eh bien, sont renfermés dans une chambre de souffrance, sur un lit de douleur, qui sont renfermés, Seigneur, sans autre moyen humain, mais, Seigneur, qui connaissent maintenant que du ciel, eh bien, vient la grâce, la bénédiction, la guérison de Dieu et le salut de Dieu. Oui, qu'ils invoquent ton nom. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci dans le nom de Jésus. Tu passes dans les rangs maintenant. Tu fais du bien, Seigneur, à chacun. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Amen.